Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Indonésie et Australie favorisent la conservation inclusive dans le sud-ouest de la Papouasie. Ambassadeur indonésien lance un programme d'échange américain et célèbre 75 ans de relations. Russie stimule l'enthousiasme des étudiants indonésiens pour l'apprentissage grâce à l'espace. Fadlizon assure le rapatriement des biens culturels encore à l'étranger. Chef de la police nationale a reçu le titre de vaillant commandant des forces de police du Royaume de Malaisie. Ministre de l'Environnement demande aux délégués de promouvoir l'action climatique de l'Indonésie à la COP29. L'Indonésie a l'opportunité de devenir le centre mondial de la mode modeste. Bonjour, je vais t'en voici les nouvelles en complet. L'Indonésie et l'Australie collaborent pour faire progresser les efforts visant à développer un projet de recherche inclusif sur la conservation des crêtes aux récifs dans le sud-ouest de la Papouasie, une collaboration axée sur la protection de l'environnement. Soutenue par Connexi, collaboration australienne et indonésienne en matière de connaissances, de technologies et d'innovation. La recherche qui s'est déroulée dans le village de Malaumkarta à Sorong, dans le sud-ouest de la Papouasie, était le résultat d'une collaboration entre le World Resources Institute, WRI, d'Indonésie et l'Université de technologie de Sydney, l'Université de Queensland et l'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRIN, la chef de mission adjointe de l'Australie, Gita Kamat, citée par Antara Jakarta mercredi 30 octobre, a déclaré que la recherche sur la conservation Reach to Reef explore la meilleure façon de protéger les zones des montagnes à la mer et comment ces efforts peuvent soutenir une initiative sur le changement climatique. Le directeur du programme Alimentation, Terre et eau du WRI Indonésie est chercheur principal de cette étude. Tony Haryadi a expliqué que l'Indonésie et l'Australie sont confrontés à des défis similaires posés par le changement climatique. Conexi s'engage à soutenir la collaboration entre les deux pays dans cette recherche pour obtenir un impact significatif. 10 jeunes de diverses régions d'Indonésie ont lancé le programme d'échange de jeunes ambassadeurs Indonesia USA 75 pour célébrer 75 ans de relations bilatérales entre l'Indonésie et les États-Unis. En communiqué de presse de l'ambassade américaine à Jakarta, cité par Antara mercredi 30 octobre, indique que le programme d'échange professionnel parrainé par le gouvernement américain a mené ces jeunes dans 5 villes des États-Unis pendant 3 semaines. Au cours du programme, les participants interagiront avec des représentants américains des gouvernements fédéraux et locaux, du monde universitaire, des organisations communautaires et des groupes religieux et ethniques. L'échange fait partie d'une année d'activités organisée par l'ambassade américaine à Jakarta et le ministère indonésien des Affaires étrangères. Le jour des élections américaines, le 5 novembre, ils visiteront les bureaux de vote pour observer le processus et explorer les valeurs démocratiques défendues par les États-Unis, la deuxième plus grande démocratie. L'une des participants, Savira Ramadanti, espère comprendre plus profondément les relations entre l'Indonésie et les États-Unis, découvrir directement la culture américaine, obtenir autant d'informations que possible auprès des intervenants et s'engager dans des conversations significatives. L'ambassade de la Fédération de Russie en Indonésie a stimulé l'enthousiasme pour l'apprentissage des étudiants de l'Université Indonesia, UI, en particulier à la Faculté des sciences culturelles, en remettant des plaques de bronze représentant 3 célèbres ingénieurs spatiaux et astronautes russes. L'ambassadeur de la Fédération de Russie en Indonésie, Sergei Tolchenov, lors de la cérémonie d'inauguration à l'UI d'époque, mercredi 30 octobre, a déclaré que les 3 experts représentés au panel, à savoir Konstantin Tsiolkovsky, Sergei Korolev et Yuri Gagarin, avaient fait beaucoup de choses, sont liés à l'espace, mais la jeune génération, y compris les jeunes étudiants indonésiens, a encore beaucoup à faire. Selon l'ambassadeur Tolchenov, la Russie possède une grande expertise dans le domaine de l'éducation et elle est prête à aider l'Indonésie à former de nouveaux scientifiques, ingénieurs, diplomates et militaires dans tous les domaines. Il a donc invité davantage de jeunes Indonésiens à venir étudier dans les universités russes. Il a noté que la Russie propose chaque année environ 250 à 300 bourses à la jeune génération indonésienne et qu'actuellement environ 800 jeunes Indonésiens étudient en Russie. Le doyen de la Faculté des sciences culturelles de l'Université Indonesia, Bondan Kanu Moyoso, a expliqué que le panel avait été envoyé directement de Russie et que le processus avait été assisté par l'ambassade d'Indonésie à Moscou. Le ministre indonésien de la Culture, Fadlizon, a confirmé qu'il continuerait à faire des efforts pour rapatrier un certain nombre d'objets culturels d'Indonésie qui se trouvent actuellement encore à l'étranger. Fadlizon, de la ville de Padang Panjang, province de Sumatra occidentale, a déclaré mercredi 30 octobre que les objets culturels recherchés sont actuellement répartis dans de nombreux pays, dont les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Inde. Ces objets se présentent sous la forme de statues, de manuscrits anciens, etc. Il a été expliqué qu'actuellement plusieurs objets culturels du pays étaient en cours de rapatriement. Ces objets devraient arriver en Indonésie en novembre ou décembre 2024. Spécifiquement pour les objets culturels indonésiens stockés en Angleterre, Fadli a déclaré que le gouvernement britannique n'était pas encore disposé à les restituer. Toutefois, le ministère qu'il dirige continuera de tenter à rapatrier ces objets historiques auparavant le gouvernement. Chef de la police nationale de la République d'Indonésie, Kapolri, le général de police Listio Sigit Prabowo, a reçu le titre de vaillant commandant des forces de police du Royaume de Malaisie. Le prix a été décerné directement par le roi de Malaisie, Sa Majesté Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, 17 Sultan Ibrahim Ibni Sultan Iskandar au Palais d'État de Malaisie, Kuala Lumpur, mercredi 30 octobre. Le chef de la police nationale, dans un message publié sur ses réseaux sociaux officiels, cité par Antara, a déclaré que le prix avait été décerné au chef de la police nationale en guise d'appréciation pour son fort engagement à maintenir la sécurité dans la région et sa coopération continue avec la police de royale malaisienne, PDRM. Sigit espère que ce prix pourra motiver le personnel de police à mieux travailler. Avant le général Listio Sigit, plusieurs anciens chefs de la police nationale avaient déjà reçu des récompenses similaires, à savoir le général de police à la retraite Dibio Widodo, le général de la police à la retraite Timur Pradopo et le général de police à la retraite Tito Carnavian. Outre le chef de la police nationale, le général Listio Sigit Prabowo, le roi de Malaisie, a également décerné le même prix au chef de la police nationale des Philippines, le général Romel Francisco Dailag Marbil. Le ministre de l'Environnement, Hanif Faisal Nurofik, a demandé à la délégation indonésienne qui participera à la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP29, en Azerbaïdjan, de promouvoir l'action climatique que l'Indonésie a entreprise dans le monde. Reportage d'Antara Jakarta, mercredi 30 octobre, le ministre de l'Environnement Hanif a transmis ses directives et son appréciation à la délégation indonésienne qui se préparer à assister à la COP29 qui aura lieu du 11 au 22 novembre 2024 au stade olympique de Bakou en Azerbaïdjan et qui porte le thème de la solidarité pour le monde vert, transmettant le message du président Prabowo Subianto. Hanif a déclaré que l'implication de la délégation indonésienne dans les forums mondiaux et régionaux doit produire quelque chose de concert pour le peuple. Le chef de l'Agence de contrôle de l'environnement, BPLH, espère également que la délégation indonésienne sortante ne se concentrera pas uniquement sur les activités cérémonielles, mais agira en tant que diplomate capable d'attirer diverses réunions bilatérales nécessaires pour discuter de la manière dont l'Indonésie peut obtenir un soutien international. Le ministre des Micro, Petites et Moyennes Entreprises, MPME, Maman Abdourahman, a déclaré que l'Indonésie a une grande opportunité de devenir le centre de la mode modeste dans le monde si l'on regarde les données existantes au cours des dernières années. C'est ce qu'a déclaré Maman Abdourahman lors de l'ouverture du Festival international indonésien de la mode modeste, IN2MF, à Jakarta, mercredi 30 octobre. Maman a déclaré qu'en 2023, l'Indonésie se classerait troisième sur 81 pays dans le classement mondial des indicateurs économiques islamiques qui montrent la force de l'écosystème de la charia indonésien au niveau mondial. En dehors de cela, l'Indonésie a atteint la troisième place dans le secteur modeste de l'habillement, Les exportations de mode modeste indonésienne vers les pays membres de l'Organisation de coopération islamique OCI atteindront 540 millions de dollars américains ou 800,48 billions de roupies en 2022. Le ministère des MPME a également lancé le concours de mode modeste pour jeunes créateurs, qui est le premier concours de mode modeste, concours de design en Indonésie et dans le monde. Pour garantir la durabilité, le Comité national pour l'économie et les finances de la charia, en collaboration avec les parties prenantes, a élaboré une stratégie nationale qui devrait être achevée cette année, afin de renforcer la position de l'Indonésie en tant que centre de la mode polie mondiale. Bon, cher Joëtar, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui.
Bonsoir, voici la queue diplomatique ayant pour le titre « Un navire de la marine indonésienne visite les îles Salomon ». Le navire hôpital KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 de la marine indonésienne a accosté à Honiara aux îles Salomon samedi 26 octobre heure locale. À cette occasion, La marine a organisé un service médical et a ouvert les portes du navire aux résidents des îles Salomon et aux Indonésiens dans ce pays. Selon Antara, après son arrivée aux îles Salomon, la force opérationnelle porte-visite 2024 de la marine indonésienne a remis une assistance médicale. L'aide a été remise par l'attaché de défense indonésien en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux îles Salomon, le colonel d'infanterie Peter Dwi Ardianto et le commandant de la force opérationnelle porte-visite 2024, le capitaine de faisceau Arif Prasetyo, au ministre de la Police, de la Sécurité nationale et des services correctionnels des îles Salomon, Jimson Fio Tanangada. Le ministre Tanangada a exprimé sa gratitude à l'Indonésie et a espéré que cette aide pourrait profiter à la communauté. Pendant ce temps, les activités des services de santé menées à bord du navire sont le don de sang et les contrôles de santé. Le chef du service d'information de la marine, le vice-amiral d'escadre de la marine indonésienne, Imade Wira Adi Arsantawardana, a déclaré dimanche 27 octobre que cette activité impliquait 17 agents de santé de la marine et 6 agents de santé de la Croix-Rouge des îles Salomon. Selon Imade, pas moins de 50 habitants des îles Salomon et 20 soldats de la marine ont donné leur sang qui sera remis à la Croix-Rouge des îles Salomon. Il espère que ce don de sang pourra être utile aux habitants des îles Salomon. La marine a également invité les habitants locaux et la communauté indonésienne des îles Salomon à venir voir et visiter le KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Imade a déclaré que l'enthousiasme des habitants des îles Salomon s'est manifesté lorsqu'ils ont capturé des moments sur le navire hôpital, pris des photos avec l'équipage et apprécié les divertissements proposés. Le premier ministre des îles Salomon, Jeremiah Manele, a également visité le KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Au cours de sa visite, le premier ministre a exprimé son admiration pour la splendeur et la sophistication du navire. Manele espère que les bonnes relations entre les deux pays continueront à être maintenues et à se renforcer. Imade a déclaré que l'objectif de la visite dans ce pays du Pacifique du Sud était d'établir de bonnes relations diplomatiques en matière de défense afin de réaliser des missions de paix avec les pays du Pacifique du Sud. Outre les îles Salomon, les pays qui seront visités sont les Fidji, le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chers auditeurs, c'était l'Arc diplomatique pour ce soir. Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 31 octobre 1984. La première ministre indienne, Indira Gandhi, est assassinée. La première ministre indienne, Indira Gandhi, a été assassinée par deux de ses gardes du corps, Sikhs. Ce meurtre a été perpétré en représailles à une attaque militaire contre le temple d'or d'Amritsar, un sanctuaire Sikh qui est le siège du mouvement séparatiste. Les Sikhs sont un peuple qui adhère aux enseignements du sikhisme, une combinaison d'hindouisme et d'islam. Des émeutes éclatent à New Delhi et près de 10 000 Sikhs sont tués. Passons maintenant à l'événement sur un avion Egypt Air 990 s'écrase dans l'océan Atlantique. Le 31 octobre 1999, le vol 890 Egypt Air s'est écrasé dans l'océan Atlantique, à environ 60 miles au sud de Nantucket, dans le Massachusetts aux États-Unis. L'accident a tué 207 passagers. Le vol Egypt Air 990 a décollé de Los Angeles, s'est arrêté à New York avant de poursuivre son voyage vers le Caire en Égypte. L'avion Boeing 767-366ER était en bon état et ne présentait aucun problème mécanique. L'enquête sur l'accident était complexe et controversée. Le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis a conclu que la cause probable de l'accident était inaction intentionnelle du copilote. Mais le gouvernement égyptien a rejeté cette conclusion, insistant sur le fait que l'accident était dû à une panne mécanique. La controverse autour du crash du vol égyptien Azulur Egypt Air 990 n'a jamais été totalement résolue. La conclusion du Bureau national de la sécurité des transports reste la cause officielle de l'accident, mais de nombreuses personnes pensent que la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit fatidique reste inconnue. Chers auditeurs, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée mondiale des villes. Chaque année, la Journée mondiale des villes est célébrée le 31 octobre. Cette journée a été déclarée par les Nations Unies, ONU, en 2013. La Journée mondiale des villes est célébrée pour sensibiliser à l'urbanisation et encourager la coopération mondiale en matière de développement urbain durable. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Pour la week suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour titre « Indonésie finalise les préparatifs pour sa participation à la COP29 ». L'Indonésie finalise ses préparatifs pour participer à la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP29, à Bakou, en Azerbaïdjan, en novembre 2024. Après une réunion préparatoire mardi 29 octobre 2024 à Jakarta, le ministre de l'Environnement, Hanif Faisal Nurofik, a déclaré que l'Indonésie présenterait ses réalisations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre lors de l'événement qui a débuté le 11 novembre 2024. En dehors de cela, l'Indonésie encouragera également la réduction des émissions dans tous les secteurs. Le ministre Hanif Faisal a expliqué que l'Indonésie avait fait part de ses réalisations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, CCNUCC, et qu'elle le affirmerait dans un discours à la COP29. Dans le même temps, il a assuré que l'Indonésie continuerait à se battre pour la question du financement climatique lors de la COP29, en particulier après que la COP28 aux Émirats Arabes Unis en 2023 ait convenu d'un financement de 83 milliards de dollars américains ou environ 1,2 trillion de roupies. L'Indonésie discutera également des questions liées au commerce du carbone qui sont explorées dans la diplomatie bilatérale avec un certain nombre de pays. Le ministre Hanif Faisal a déclaré que l'Indonésie transmettrait toutes les réalisations qu'elle avait réalisées conformément aux objectifs fixés dans le document climatique de l'Indonésie sur la contribution déterminée au niveau national NDC. Sur la base du document NDC amélioré, la réduction des émissions de l'Indonésie jusqu'en 2030 est ciblée à 31,89% avec ses propres efforts et augmentée à 43,2% si elle obtient un soutien international. La délégation indonésienne à la prochaine COP29 sera dirigée par Hashim S. Joyoadikusumo. En dehors de cela, Hashim a également été nommé envoyé spécial du président Prabowo Subianto pour l'énergie et l'environnement. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Masa laluku, nekatku dan teh. kamu cuma kamu yang mengisi mimpi.
Kamu cuma kamu,
oh takkan takkan terganti.
Kamu cuma kamu,
ku tak akan berpaling ke lain hati.
Kamu cuma kamu, kamu cuma kamu, cuma kamu satu di hati. Cuma kamu, ku takkan berpaling kasih.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, la région touristique Java-Est possède une variété de destinations touristiques intéressantes, du patrimoine historique, du charme naturel aux délices culinaires typiques. En voyageant en Gresik, il existe de destinations touristiques naturelles qui est la préférée des résidents. Son nom est le lac Ngipik. Le lac Ngipik est un réservoir d'eau qui sert des zones de loisirs familiales. L'emplacement est dans le village de Ngipik, district de Gresik, région de Gresik, à 2,9 km de la ville de Surabaya, à une distance d'environ 10 minutes. Pour accéder à ce lac, vous n'avez pas besoin de payer de ticket d'entrée, il vous suffit de payer un ticket de parking. Ces auditeurs, le lac Ngipik est situé sur un terrain de 20 hectares appartenant à Semen Gresik Société Anonyme. C'était autrefois une mine d'argile. L'exploitation rapide des terres en extrayant du sable et des roches a abouti à la formation d'un grand bassin. Ce bassin est ensuite rempli d'eau de pluie pour former le lac Ngipik Gresik. Semen Gresik Société Anonyme a ensuite planté des arbres autour du lac pour réduire la pollution de l'air dans la zone industrielle. Aujourd'hui, les arbres autour du lac poussent de manière luxuriante et verte et ont réussi à devenir le poumon de la ville. Ces auditeurs, en visitant le lac Ngipik, vous pourrez pique-niquer, faire du ski nautique, pêcher et faire un tour en bateau à moteur autour de ce réservoir artificiel. En plus de profiter de sa beauté, vous pourrez prendre une tasse de café dans un café non loin de l'ancien lac d'excavation en ciment. Vous pourrez vous détendre et vous relaxer en attendant que le soleil se couche. Le lac Ngipik propose également des installations de divertissement sur scène selon un certain horaire. Les autres installations comprennent un parking, une zone commerciale, un café, des toilettes et un domaine de ski nautique. Ces auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Digging all the lies that are just crunching someone's life. Now what my worry, yeah. Gotta hold my head up high, I'ma get it stronger, yeah. And nothing gonna break my stride, I gotta keep on moving. Gotta be left to the punch, hit me with your best shot. Keep it coming, now I'm my worry, yeah. Gotta hold my head up high, I'ma get it stronger, yeah. And nothing gonna break my stride, I gotta keep on moving. Gotta be left to the punch, hit me with your best shot. Keep it coming, coming. Keep it coming. Keep it coming. Keep it coming. I'm a warrior.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Intitulée Raja Ampat devient l'une des meilleures destinations au monde à visiter en 2025 selon National Geographic. Le 24 octobre dernier, National Geographic a publié une liste des 25 meilleures destinations au monde qui devraient être visitées en 2025. Parmi les 25 meilleures destinations au monde, l'une d'entre elles se trouve en Indonésie, à savoir Raja Ampat, en Papouasie-Occidentale. Ces 25 des meilleures destinations au monde offrent le point de départ idéal pour une inspiration de voyage, destiné à une variété d'intérêts, aux gourmets, aux amateurs aventuriers et aux familles. Cette liste est basée sur les idées et l'expertise des experts et éditeurs de voyages de National Geographic, y compris la destination émergente et établie de longue date. Nathan Lam, rédacteur en chef de National Geographic, a déclaré que la sélection de cette année était axée sur les voyages qui apportent la joie et la curiosité. Dans l'article Le meilleur du monde 2025, écrit par Karen Carmichael, il indiquait que Raja Ampat est une merveille marine avec environ 500 types de coraux, plus de 1000 espèces de poissons coralliens et des créatures marines telles que les raies mantas et les dugongs. Enfin, les recoins zèbres, autrefois menacés d'extinction, commencent aujourd'hui à réapparaître grâce aux efforts de conservation. L'équipe de National Geographic a exploré Raja Ampat via la croisière. L'exploration indonésienne à travers l'océan du 20 jours. Carmichael a écrit que la chose que vous devez faire à Raja Ampat est d'explorer l'écosystème marin qui prospère. Raja Ampat est un magnifique paradis sous-marin composé de quatre îles principales, à savoir Wegeo, Batanta, Salawat et Misol, ainsi que des milliers de petites îles dispersées autour. Outre la beauté de la mer, Raja Ampat est aussi célèbre pour l'oiseau de paradis exotique. Il existe de nombreuses activités touristiques intéressantes qui peuvent être pratiquées à Raja Ampat, y compris la plongée en apnée, la plongée sous-marine, voire la culture des perles et l'exploration des îles, qui est une activité touristique réalisée en visitant plusieurs îles séparées par l'eau. Outre la Raja Ampat, National Geographic recommande 24 autres destinations, de l'escalade en Inde au tourisme culinaire en Afrique de l'Ouest et au forêt national Pierce de Floride. Chers amis, c'est à la rubrique l'Indonésie en couleur de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Cool.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson intitulée « Prahara Cinta ». Chers amis, « Prahara Cinta » a été popularisé pour la première fois par le duo frères-sœurs Lydia et Imaniar en 1987. Cependant, cette chanson est devenue plus connue du public après avoir été chantée par Hedi Yunus. Hedi Yunus, chanteur et acteur indonésien. Il est connu comme l'un des chanteurs du groupe de musique Kahitna et il est également soliste. La version de Hedi Yunus de la chanson Prahara Cinta a été incluse dans son troisième album solo intitulé Suratku, sorti en 1995. Cette chanson, écrite par Randy Anwar et Megia Waludin, décrit les sentiments de quelqu'un qui est amoureux. Bonjour, je t'ai voici Hedi Yunus. Va chanter une chanson intitulée Prahara Cinta. Bonne écoute.
Sedang jatuh cinta mengapa semua begitu indah dilihat begitu sedap dipandang seolah ku ingin selalu tersenyum tapi aku malu padamu. Sedang jatuh cinta, mengapa?
dipandang seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu.
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voixindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.